On est très heureux de vous compter parmi nous. Il est midi 42 précisément. La météo, 24 degrés ensoleillés pour aujourd'hui. 24 demain aussi ensoleillé. 24 jeudi alternant soleil et nuages. Et le mercure baisse à 18 pour vendredi. Mais écoutez, c'est du beau temps là, comme ça jusqu'à lundi prochain. Jusqu'à présent, alors on profite de ces belles journées du mois de septembre. Pascal, avant la pause, j'en parlais. On parlait de non. Responsabilité criminelle au niveau des gens qui commettent des crimes. Et on parlait justement de cette mère de famille qui avait abandonné sa fillette le long de l'autoroute en Ontario. Elle provenait de la région de Montréal. Et là, on apprend qu'elle va rester détenue au centre justement psychiatrique Pinel. Et ça fait le bonheur de plusieurs citoyens qui disaient, écoute, comment ça qu'elle sortirait immédiatement? C'est la demande qu'elle avait faite. Et là, pour nous éclairer sur tout ce concept-là, Pascal, tu as parlé avec un avocat de la défense.
Voilà. Écoute, hier, quand je te parlais de la nouvelle, quand c'est tombé que cette mère-là était déclarée non criminellement responsable, j'ai tiqué sur une partie du jugement que le juge Bertrand Saint-Arnaud a fait en salle de cour hier matin au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Il a dit « Quiconque prend connaissance de toute la preuve et du rapport psychiatrique très complet, très exhaustif, ne peut être que convaincu qu'il s'agit du bon verdict à rendre. » Et depuis le début dans ce dossier-là, tout le monde est un peu « On dirait qu'elle a arrangé ça pour que... » On dirait que c'était planifié, elle n'avait pas son cellulaire. Étrange qu'elle soit allée cogner aux portes d'un dépanneur pour dire « J'ai perdu ma fille. » Il y a eu des vidéos où on la voyait menaçante. Elle était particulièrement agressive.
Sur les médias sociaux, en effet.
Les heures avant, qu'elle abandonne sa fille, en bordure de l'autoroute. Ça faisait jaser énormément. Puis je vois qu'au 88-971-1021, comme dans tous les commentaires sur les réseaux sociaux, quand une nouvelle comme celle-là sort, on est émotif. On se demande si on se fait en faire wapper aussi.
Bien, on est émotif parce que ça touche les enfants. On veut protéger les enfants. Au Québec, malheureusement, dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'histoires reliant les enfants, reliant la DPJ. Donc, c'est clair que je vais le dire de cette façon-là. Je pense que la majorité de la population a un biais défavorable face à des personnes qui, malheureusement, commettent ce type d'acte-là, comme la dame a fait avec sa fille.
Puis, tu sais, après des drames comme Pierre-Ny-Saint-Amand, qui, du côté de Laval, là, font ça avec un autobus dans une garderie, puis on l'a déclaré non criminellement responsable, on voit que, de plus en plus, c'est médiatisé, ça. Quand on déclare que l'individu ne pourra pas subir un procès comme habituellement, vu son état de santé mentale, puis ça fait en sorte qu'il y en a qui ont des doutes aussi sur les avocats de la défense, en se disant, OK, là, c'est une stratégie.
Oui. Moi, le premier cas qui m'avait frappé l'esprit, c'était le cas du docteur Guy Turcotte, là, évidemment. Là. Donc, tu as parlé avec Alexandre Langlois, c'est bien ça?
J'ai eu une conversation téléphonique ce matin, oui, avec un avocat d'ici dans la région, avocat en droit criminel et pénal, maître Alexandre Langlois. D'abord, je voulais savoir, pourquoi est-ce que le public est aussi critique face à une reconnaissance de non-responsabilité criminelle dans un dossier très sensible?
Je pense que la raison pourquoi c'est autant critiqué par le public, c'est que ça semble être une solution facile de l'opinion du public. Là, on se dit, une personne qui a commis un crime dans notre société qui s'en tire enfin. Je pense que c'est mal perçu par la population. Cependant, moi, je pense qu'au contraire, là, c'est quelque chose qui est positif pour la société. Parce que quand on arrive à un verdict d'être déclaré non criminellement responsable, évidemment, on est en présence d'un individu qui est atteint de réels troubles mentaux qui affectent sa cognition à un point où on se pose la question si elle est capable de déterminer le bien ou le mal dans les gestes qu'elle pose. Puis ces individus-là ont besoin d'aide, n'ont pas besoin d'être incarcérés ou écartés de la société dans une prison. Ils ont besoin de recevoir des soins. Puis c'est pour ça que je pense des fois la distinction en disant c'est un verdict facile à aller chercher, puis la personne s'en tire de son geste, mais non, là, la personne après ça, elle est suivie pour une période assez longue, là, puis va recevoir des soins pour pouvoir l'aider.
C'est notre besoin qu'il y ait absolument un coupable à la situation qui fait en sorte que on croit pas à cette fameuse santé mentale?
Bien là, clairement, quand il y a des individus, même s'ils sont reconnus non criminellement responsables, sont accusés et coupables de leurs gestes, bien, ça reste que c'est le coupable de la scène. L'affaire, je pense, qui est un peu sensible. En passant, je vous dis là, que le maître Alexandre Langlois, c'est pas l'avocat de la défense dans les dossiers dont on parle. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'extérieur de ces dossiers-là parce que c'est important. Mais droit criminel et pénal, c'est sa fonction. On s'entend, c'est pour ça qu'on l'a choisi pour commenter le dossier. Mais, tu sais, déjà, là, au 88-971-1021, des gens qui arrivent avec plein de commentaires, puis on veut vous lire, qui disent « Ben, moi, j'y crois pas encore. On dirait que c'est planifié. » C'est super sensible. Les gens ont envie que les criminels, quand ils sont coupables, jugés coupables, soient accusés en toute connaissance de cause de leurs actes. Ils ont peur que ça vienne, en fait, amenuiser la lourdeur d'une accusation qui est en prison ou autre. Mais il faut savoir que c'est difficile à avoir ce genre de verdict-là de non-reconnaissance criminelle responsable.
C'est quand même un verdict assez difficile à aller chercher dans le sens où la première étape, c'est de faire la demande d'évaluation de la responsabilité criminelle. Ça, c'est la première étape. Évidemment, nous, les avocats en défense, ce qu'on fait, on fait la demande, c'est souvent c'est basé sur des motifs raisonnables qu'on appelle. Donc, à l'évaluation de notre dossier, on se pose la question si la personne avait des raisons de soulever là, la responsabilité criminelle ou pas. Quand on demande, évidemment, nous, les avocats de la défense, on n'est pas des intervenants psychosociaux. Donc, évidemment, on va déférer ça à un psychiatre, donc une ordonnance qui va être demandée à un juge pour que la personne soit évaluer, puis tout dépendamment du dossier, tout dépendamment de l'individu, c'est des évaluations qui peuvent être assez longues. Il y a des personnes pour peut-être des plus petits troubles mentaux sous-jacents ou des plus petits comportements, ça va être des évaluations qui vont prendre peut-être 2 semaines. Quand il y a d'autres cas où c'est un peu plus lourd factuellement, ou s'il y a des faits un peu plus lourds ou des questions d'enjeu santé mentale un peu plus importants, ça peut prendre un peu plus qu'un mois là, avant que le psychiatre prenne sa position. Évidemment, c'est pas l'avocat de la défense, c'est pas l'avocat de la couronne, c'est pas eux qui déterminent si c'est criminellement si la personne est criminellement responsable ou pas. C'est le psychiatre qui va émettre une opinion dans un rapport qui souvent est assez bien étoffé. Après avoir bien évalué la personne sur une période de temps assez importante, qui va émettre des recommandations au tribunal pour déterminer si cette personne-là devrait être criminellement responsable ou pas.
C'est super intéressant depuis le début, Pascal, parce que je retiens 2 choses. La première, c'est que faut faire confiance en nos spécialistes, en nos psychiatres, justement, qui vont évaluer la personne et la situation. Et la deuxième chose, c'est que ces gens-là, même s'ils sont reconnus non criminellement responsables, ont un suivi à vie par la suite. Donc, ça fait vraiment partie du processus de réhabilitation sociale qu'on a au Québec.
C'est strict, c'est demandé, c'est suivi. Parfois, on a vu dans l'actualité un genre de manque de rigueur. Ça, on pourrait continuer d'avoir notre opinion. Puis, allons-y avec toutes les opinions se valent là-dedans.
Clairement.
Mais effectivement, il y a une suite à tout ça et elle est très stricte.
Et la suite, en fait, ça va être déféré au TAC, donc le tribunal administratif du Québec, là, sous la supervision de la commission d'examen des troubles mentaux. Cette commission-là va avoir la lourde tâche, je veux dire, de réviser annuellement la situation du patient, puis va réviser si le patient représente un risque, on dit un risque non assumable pour la société. Donc, ce qui veut dire, c'est est-ce que cette personne-là représente un danger pour la société ou pas? Puis il va faire des recommandations, puis autant des recommandations de soins, ça peut être des recommandations d'émettre une ordonnance de garde en établissement de soins parce que cet individu-là doit être retenu dans par exemple, une aide psychiatrique pour recevoir des soins un peu plus importants. Ça peut être des recommandations au niveau là, d'une médication à prendre, puis de fil en aiguille, d'année en année, si la personne représente un risque qui est assumable pour la société, donc qui techniquement ne représente plus un danger pour la société, bien, va se voir recevoir une condition, une libération inconditionnelle, donc c'est-à-dire sa libération sans condition, puis va pouvoir retrouver son train de vie normal. Évidemment, plus le crime est grave, plus l'état de santé mentale est important. Évidemment, plus la commission va être impliquée sur une longue période de temps. Donc ça, c'est l'autre notion aussi que je pense qui est mal connu du public, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit un verdict d'être non criminellement responsable, se retrouve dans un, souvent dans un long processus par la suite, où ce que la personne doit aussi s'investir auprès de, des soins qu'elle doit recevoir, puisqu'elle elle va être forcée, là, en quelque sorte, là, de recevoir ces soins-là jusqu'à temps qu'elle représente là, un risque estimable pour la société, donc qu'elle ne représente plus un danger pour notre société.
Ça va exactement de pair avec un auditeur qui nous écrit « Cet avocat représente exactement ma pensée. Recommandation commune, on démontre l'évidence, les pénitenciers sont pleins, donc il n'y a pas de place à des sentences pour rien. » Mais que gagnerait la fillette de voir sa mère en prison? Ça serait probablement encore pire pour sa rééducation vers une vie normale. Puis en même temps, j'adore nos auditeurs parce qu'il y a un autre texto qui est rentré pour dire « Ben voyons donc, ces suivis-là, ils peuvent se faire en dedans. » Donc, c'est le fun de voir les opinions comme ça au 418-971-1021. Continue de nous écrire.
On a vu de fin... j'appelle ça, mais c'est parce que c'est même pas assez fort des fins renards, j'allais dire.
Oui.
Moi, je trouve qu'on a vu... de forts manipulateurs parfois arriver à corrompre, à convaincre,
clairement,
à défier la vérité face à des experts. Puis je me demande si des fois on s'en fait passer des petites vites, puis c'est peut-être pas le cas dans certains dossiers. C'est quelque chose qui brûle les lèvres et j'ai posé la question à Maître Langlois, à savoir, est-ce que des gens, des diagnostics psychiatriques qui ont été faits, puis après ça, on s'est reviré de bord en disant non, ça correspond pas, on s'est fait avoir, ou est-ce qu'il y a eu un changement de position dans un verdict, ou qu'est-ce qui a déjà été vu? Est-ce qu'on a déjà viré de bord dans un dossier comme tel?
Ça peut arriver. Souvent, ça peut se percevoir dès les premiers instants, parce que, comme je mentionnais, la première étape, c'est de demander une ordonnance pour faire l'évaluation. Il va avoir un rapport qui va être émis, un premier rapport qui va être émis d'un premier psychiatre. Si jamais, par exemple, on arrive à un verdict de non-responsabilité criminelle, puis que le procureur de la couronne qui représente l'État, là, qui poursuit l'individu, est pas d'accord, ben peut faire une demande là, d'avoir un second expert, donc un second psychiatre qui fait l'évaluation, parce qu'évidemment, à la lecture même du rapport, des fois, il peut y avoir certains enjeux qui pourraient être soulevés, puis on pourrait juste faire une seconde expertise. Puis là, si jamais on a deux expertises, bien, à ce moment-là, il va devoir y avoir un procès pour savoir le juge comment il doit trancher. Sinon, ça peut être déféré aussi à la commission d'examen des troubles mentaux, qui, eux, vont creuser un peu plus loin pour déterminer si on doit faire un peu plus d'expertise. Est-ce qu'on doit prolonger la durée d'évaluation? Donc, il y a plusieurs... mécanisme effectivement là, de protection pour s'assurer que les personnes qui sont non seulement responsables le sont réellement.
Dans le cas de la fillette justement abandonnée, si je ne me trompe pas, Pascal, la mère a suivi justement deux évaluations, une recommandée par la couronne et une recommandée par la défense. Et c'est à la suite de ces deux évaluations-là qu'on en est venu justement à ce verdict-là.
Oui, puis c'est un dossier qui est loin d'être terminé, mais clairement, on se rend compte que la couronne, la défense, même le juge semblait quand même très convaincu de ces rapports psychiatriques-là. Femme de 34 ans, rapport psychiatrique qui évoque qu'elle souffrait d'un épisode de manie mixte avec symptômes psychotiques au moment des tristes événements, et ça l'aurait vraiment empêché de distinguer le bien et le mal. Tu sais, ça, c'est une portion, la portion de justice, la portion de psychiatrie, mais j'ai envie de terminer cette conversation-là avec une question que je vous pose à vous, une question que je te pose à toi, Jeff.
Vas-y donc.
Il y a toujours l'autre pan, puis l'autre pan, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que société, pour réussir à colmater ces problèmes de santé mentaux-là qui errent dans notre société, qui ne sont pas pris en charge et qui certainement nous font échapper certains individus qui commettent l'irréparable.
C'est tellement une bonne question et c'est une question que nos politiciens et les gens qui travaillent en santé mentale doivent se poser. Je fais un parallèle qui va peut-être sembler boiteux, mais je lisais dans la presse 108 décès de personnes en itinérance dans la dernière année. Mm-hmm. C'est un record à Québec. Il y a énormément de problématiques de consommation et de santé mentale également derrière ça. Donc, la crise de l'itinérance, la crise également de violence qu'on voit à l'heure actuelle, la santé mentale en fait partie, il n'y a pas de doute dans mon esprit.
Oui, puis tu sais, tu le disais, le dossier dans la presse est extrêmement intéressant. Un électrochoc nécessaire, c'est ce que disent des organismes et des politiciens, comme quoi la situation, c'est un constat terrible, c'est aberrant, c'est un portrait tristement réel qui prend énormément de place dans notre société.
Vraiment. Merci pour ton dossier parce que tu m'as rassuré sur le processus, par contre, qui amène à justement cette sentence ou ce résultat-là que la personne est non criminellement responsable. Parce que des fois, justement, je me disais,
Coudon, y en a-tu qui essaie de prendre la petite porte de sortie facile avec ça? Puis y a-tu des avocats qui jouent cette porte-là justement parce que ça paraît mieux avoir fait en sorte que ton client est non criminellement responsable que accusé d'avoir commis l'irréparable?
Selon mon opinion, c'est jamais noir ou blanc. Assurément, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça nous l'a prouvé dans le passé, puis ça c'est va nous clair. Le prouver dans le futur. Mais effectivement, moi aussi, je suis un peu rassurée de savoir que c'est un processus qui est strict.
Oui, vraiment un processus strict, un processus clair. Merci beaucoup à Alexandre Langlois, maître Alexandre Langlois. Merci Pascal pour cet excellent dossier. C'était très, très, très intéressant. On fait une courte pause à Boulevard 101 et par la suite, c'est Rémi Villemur qui va venir s'installer pour sa chronique du mardi. On va revenir sur le déficit de 100 milliards au niveau du gouvernement fédéral. Rémi a des propositions par rapport à ça, mais on va surtout parler de la caisse de dépôt qui diminue ses investissements au Québec. On veut quoi? On veut-tu du rendement? Où on veut faire profiter nos entreprises? C'est la question qu'on va se poser avec Rémi. Donc, Pascal, c'est la question qu'on va te poser également. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin et Pascal CV. On revient dans un moment.